Premier sujet, Pierre-Yves, ce matin, l'impôt minimum pour les entreprises.
Oui, est-ce une solution magique? Non, le G20 va en parler cette semaine. Il y a des reportages dans les journaux. Mais simplement parler de base. Donc, l'impôt minimum, c'est quoi? C'est un concept par lequel, peu importe ce que les comptables, mes confrères, les fiscalistes réussiront à faire pour une entreprise de se faire imposer à quelque part dans le monde, il y aura sur les profits un pourcentage d'impôt minimum. Maintenant, où imposer? À quel taux? Comment? Ça, c'est des technicalités. Mais la réponse derrière ça, c'est on veut que les pays arrêtent de se faire une concurrence fiscale excessive. Mais là, les gens disent, ouais, mais mettons là, qu'on fixe un taux minimum à 15%, ben tout le monde va mettre son taux d'impôt à 15%, puis les fiscalistes vont intervenir pour optimiser l'impôt pour que ça donne 15%, mais ça ne donnera pas nécessairement plus d'argent au Canada, aux États-Unis. Non, il faut faire des concepts de base pour un jour arriver à une entente mondiale de base. Mais quelles seront les conséquences de faire ce genre de geste-là? Premièrement, si vous avez des placements dans des entreprises qui sont hautement, disons, exposées à l'évitement fiscal, disons des entreprises, Paul, qui ont la créativité fiscale très, très élevée, bien évidemment, ces entreprises-là vont voir leur valeur possiblement un jour décotée si ça arrive parce que, évidemment, il y a une portion de l'impôt qu'ils vont payer qu'ils ne payaient pas. Ça, c'est la première des choses. Deuxième point, les paradis fiscaux, c'est très populaire dans l'imaginaire collectif. Mais il y a des paradis fiscaux que même si on les imposait, il n'y a pas plus d'impôts qui arriveraient au Canada. Je te donne un exemple. Quand la Caisse de dépôt et de placement du Québec a des partenaires dans un paradis fiscal et on dit « on fait une entente là pour simplifier la transaction », et ce sont nos déposants qui vont s'imposer au retrait, comme c'est le cas au Québec. Si la Caisse dépôt fait plus d'argent à l'étranger parce qu'elle paie moins d'impôts à l'étranger, le déposant a plus d'argent dans son compte et donc quand il retire, il paye plus d'impôts. Et donc, c'est comme prendre de l'impôt étranger puis l'amener au Québec. Donc, c'est pas toujours mal le paradis fiscal.
Pas sûr que je te comprends. Là.
Ben, en fait, disons que Paul, la Caisse s'en va faire 100$ dans un paradis fiscal.
Mm-hmm.
Puis qu'elle paye pas 15% d'impôts là-bas. Mais qui retrouve 100$ dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec à la place au lieu de 85$. Mais le déposant, c'est-à-dire moi, là, avec mon régime des rentes du Québec, quand je vais retirer le 100$, mais je vais retirer 100$ à mon taux d'impôt et non pas 85$ à mon taux d'impôt.
Oui, mais il y a quelque chose que je trouve, là, au-delà de la logique comptable, si on veut, il y a quelque chose d'indécent de déplacer des centres de profit dans des endroits pour payer moins d'impôts, alors que ton argent, tu l'as fait ici, que tu as profité entre guillemets, des infrastructures québécoises ou canadiennes. Ouais. Moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, puis on a vu avec Apple, qui était une entreprise spécialisée dans la multiplication des centres de profit, mes droits d'auteur sont là, mais ici, c'est des bureaux vides. Tout ça pour pas payer d'impôts. Mais collectivement, on ramasse les factures pendant ce temps-là.
On est d'accord. Là, je te parlais d'un deal à l'étranger sur une patente. Pas Apple, Starbucks, Facebook, qui décident de déplacer l'endroit où la taxation est faite, où le profit est constaté, où Caterpillar, il y a eu plein d'exemples, simplement pour payer moins d'impôts. Ça, on est d'accord. Donc, les États-Unis, ce qui est drôle, Paul, c'est que leurs grandes entreprises ont profité de ça pendant des années, et maintenant qu'elles sont rendues gigantesques, là, on commence à agir. Un bon exemple, c'est Apple. Va voir les états financiers d'Apple. Il y a plein de placements. Tu te dis, mon Dieu, pourquoi ils ont autant de placements? C'est parce que s'il est rapatrié aux États-Unis, il faudrait qu'il paye de l'impôt. Donc, il les laisse à l'étranger. Puis l'autre point là-dedans, dans toute cette solution magique, toute cette réflexion, c'est de se dire, OK, mais où on taxe un revenu de Facebook? Tu sais, c'est-tu quand il vend à quelqu'un ici ou c'est vendu aux États-Unis ou c'est vendu au siège social? Tout ça est un débat extrêmement important. L'autre point, les États-Unis, où ils sont un petit peu hypocrites, c'est qu'on parle de ça, mais en même temps, pendant l'ère Trump, on a baissé les impôts. Pendant l'ère Trump, on a aussi dit aux entreprises, vous savez quoi? Si vous faites une dépense en capital, en investissement, vous pouvez tout déduire la première année. Et donc, des entreprises qui n'ont pas payé d'impôts à une certaine année, parce qu'ils ont beaucoup investi, on leur a permis de tout déduire fiscalement. Donc, au niveau comptable, il y avait des profits, mais au niveau fiscal, il n'y avait pas de profits imposables parce qu'il y avait beaucoup de dépenses. Alors, on dirait que les États-Unis, à un moment donné, ils s'adaptent quand ça fait leur affaire. Mais là, bon, je suis d'accord que mondialement, une entreprise doit payer de l'impôt, on s'entend. Tu prends des ressources collectives, paye à la collectivité.
Oui, mais c'est comme, mettons. Je pensais pas qu'un jour, on parlerait de Kim Kardashian dans ta chronique.
Je savais, mais là, elle est milliardaire. OK,
selon okay Ford, alors c'est Mme Inc.
Mme Inc en maudit. Elle est rendue milliardaire comme dans sa famille beaucoup de riches, les Jenner Kardashian et anciennement son mari Kanye West. Mais la question est, il y a beaucoup de jugements autour de ça. Parce qu'on a dit Kim Kardashian ne fait qu'être que Kim Kardashian. Et en effet, l'avantage de cette famille-là, c'est qu'en 2007, il y avait une télé-réalité qui a duré pendant des années, et cette famille-là s'est bâtie un empire en même temps que les réseaux sociaux. Donc, c'est devenu les premiers influenceurs d'importance à maintenir cette valeur-là. Ils ont su la monétiser, on va être d'accord. Ils ont fait beaucoup d'argent, compagnie de cosmétiques, de lingerie. Tu sais, même quand elle est venue à Montréal pour Thierry Mugler au Musée des Beaux-Arts contemporains, on s'entend, là, c'était pas gratuit. Au Musée des Beaux-Arts, excuse-moi. Donc, c'était pas gratuit. Donc, on monétise ce qu'on est. Et les gens disent, ah, c'est donc épouvantable maintenant, des gens qui deviennent riches avec les réseaux sociaux. Puis, attention, la monarchie, ce sont les premiers influenceurs. On allait voir le roi puis la reine boire le thé, manger. C'était ça, les premiers influenceurs. On a juste changé la façon de le faire. Mais pour les jeunes qui
rêvent... Mais elle s'est mise en marché puis c'est payant pour elle.
Oui.
C'est ce qu'on fasse.
Mais pour les jeunes qui rêvent de faire le même genre de carrière, vous n'avez pas le même genre de canal de distribution. Restez à l'école. Les chances sont faibles de réussir.
En alternance.
Exact.
Merci. Bonne journée. Il est 7h22. La 13, Marc.